Vendredi 25 avril, l'association Colère du Présent, en collaboration avec les amis de Robespierre, ont organisé à l'Office culturel d'Arras une rencontre débat avec Valère Starazelski, auteur du roman « L'adieu au roi ». Un roman qui parle d'une période assez sombre de l'histoire de la Révolution française, celle dite de la terreur. Sous les multiples menaces de la Prusse, de l'Autriche et de l'Angleterre, la France baigne dans un marasme de sauvagerie, de férocité et de guerre civile. Et pourtant, les révolutionnaires décident de faire leurs véritables adieux à la monarchie d'une manière assez radicale. Entretien avec l'auteur qui nous explique comment il a travaillé pour écrire à l'adieu au roi. On évoquera avec lui également le cas de Maximilien Robespierre, célèbre natif d'Arras. Bienvenue à Arras d'abord.
Oui, bah merci. J'aime beaucoup Arras. Je connais bien cette ville. Et puis c'est certainement une des plus belles villes de France. Je le pense sincèrement.
Il y avait une petite soirée organisée avec l'association Colère du Présent pour parler de votre livre, L'adieu au roi. Qu'est-ce que ça raconte exactement?
Alors, L'adieu au roi raconte ce qui s'est passé en 1793 dans la basilique Saint-Denis, qui se trouve près de Paris. Et il raconte notamment l'extraction des corps royaux, c'est-à-dire que sur ordre de la Convention ont été démontés les monuments funéraires des reines et des rois de France. Et ensuite, au mois d'octobre, les corps des cadavres des rois et des reines de France et des grands de l'État ont été sortis de leur cercueil et jetés dans deux fosses. Donc je raconte précisément ce qui s'est passé, puisqu'on le raconte par bribes, etc. On le raconte aussi de manière, de manière fausse. Donc là, je raconte précisément ce qui s'est passé en m'appuyant sur le témoignage de l'organiste de la basilique Saint-Denis, qui s'appelle Ferdinand Gauthier, qui a laissé un témoignage écrit.
Ce livre, est-ce que c'est plus un complément historique ou alors c'est plutôt une remise à plat de certains événements qui se sont passés à cette époque?
Ah non, c'est vraiment une remise à plat. Il n'y a aucun bouquin qui raconte ça. Il y a juste une note à la fin du Génie du christianisme de Chateaubriand qui raconte comment on commence par Henri IV pour finir par Dagobert, mais de manière un petit peu très succincte. Moi, je raconte dans les détails comment ça s'est passé et en même temps, je raconte de A à Z. Donc, c'est la première fois que dans un ouvrage, historique qui concerne tous les Français est raconté.
Alors comment vous avez effectué ce travail de recherche, avec notamment le travail sur le journal de Gauthier?
Je vais dans les bibliothèques, la Bibliothèque nationale, etc. Je cherche, et donc je me suis appuyé sur les documents des prêtres qu'il y avait dans la basilique Saint-Denis, dont Poirier et dont Germain, c'est leur nom. Je me suis appuyé là-dessus, aussi sur les mémoires d'un certain Martineau, qui sont très très faibles. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de choses qui restent. Par contre, j'ai découvert presque par hasard, par association, en cherchant les noms, etc., ce journal de Ferdinand Gauthier, à la Nationale, qui est un petit peu dans le désordre d'ailleurs. Je l'ai recopié en entier, donc il faut le recopier au crayon de papier, etc. Et j'ai remis ça dans l'ordre chronologique.
Quelle est la part de fiction dans votre roman?
Aucune, sauf le dispositif du récit. Ce sont trois amis qui sont rue de Nevers en janvier 94, qui se retrouvent tous les jours et qui reçoivent ce fameux Ferdinand Gauthier. C'est le dispositif pour mettre en scène le récit. Mais tout ce que je raconte dans le livre est tiré des archives. Bien sûr, je l'ai réécrit un petit peu pour que ce soit lisible aujourd'hui. Mais en fin de compte, on peut dire que c'est un roman vraiment fabriqué à partir d'archives.
Alors, lors du débat qui a été organisé aussi par l'association Colère du Présent avec les amis de Robespierre, évidemment, on parle un peu de Robespierre. Alors, selon vous, est-ce que Robespierre, finalement, c'était un grand homme d'État, défendeur des droits et de la liberté, ou plutôt un tyran et plutôt un psychopathe?
Alors, c'était ni l'un ni l'autre complètement. C'est celui qui a fait la République française. C'est cet homme qui a, qui a été à la hauteur des événements que traversait la France à l'époque et qui en fait est mort d'épuisement. Ce n'était pas un tyran parce qu'il s'est laissé abattre, c'est quelqu'un qui était au contraire extrêmement légaliste. Il était embarqué dans la Révolution avec tous ses excès, mais lui n'a jamais été à la le moteur des excès. Au contraire, il essaie de sauver la sœur du roi Elisabeth. On demande la tête de plus de Girondins, il en empêche. Et comme je le raconte dans le livre, on interdit le culte catholique, la Convention interdit le culte catholique en France. Il monte seul à la tribune et la fait rétablir. Donc c'est plutôt quelqu'un qu'on a chargé après sa mort, pour pouvoir mieux masquer, ceux qui l'ont chargé, pour pouvoir mieux masquer leurs méfaits. Et c'est un très grand homme d'État, et c'est vraiment celui qui a fait non seulement la Révolution, mais qui a fait aussi la République française.
Citoyen président, je demande la parole.
Robespierre vient d'arriver.
Moi, qui suis né esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi ? Qui répand ces mensonges ? Qui les avance si délibérément pour vous tromper ? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Citoyen, je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyen, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyen ! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale.
Citoyen ! Je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion.
Ce n'est pas le moment.
Robespierre doit nommer ceux qui l'accusent.
Des noms !
Des noms !
Je la boirai sur ces sièges sacrés. Pourquoi vivre quand la vérité, le mensonge reste indivisible ?
Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran.
Mort
au tyran !
Je pense le décret aux voix. Tous ceux qui sont pour, lèvent la main.
Attendez !
Que pensez-vous de la transmission historique en général aujourd'hui et plus précisément dans l'éducation nationale ?
Ce que je constate, c'est que, comme le disait le fameux historien anglais Eric Osborne, et pas que lui, aujourd'hui les jeunes générations vivent dans un éternel présent. Donc il y a un problème effectivement de transmission de la connaissance historique, et ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce qu'on ne vit pas en apesanteur, on ne vit pas ex cathedra, on est dans une lignée historique, on est dans une chaîne, et si on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas trop où l'on va. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi j'essaie, moi, à mon humble niveau, pour mon pays, pour la France, de travailler ce qui nous a fait, ce qui nous a fait encore aujourd'hui, parce que la Révolution française, c'est quand même pas si lointain que ça.
Dans le monde politique d'aujourd'hui, quel serait, pour vous, l'équivalent de Robespierre, s'il y en a un ?
Ben à mon avis, il doit y en avoir, mais c'est pas eux qu'on voit à la télévision ni qu'on entend sur les radios. Il y en a, il y a des gens très honnêtes, très légalistes, au service du bien commun, mais écoutez, c'est pas eux qu'on voit en tête d'affiche, et je parle de surtout le spectre, de l'extrême droite à l'extrême gauche.
Évidemment, dans votre roman, on parle aussi un peu du pouvoir, parce que c'est quand même la fin des rois, la République est née.
Le pouvoir, c'est le pouvoir faire. Donc il y aura toujours du pouvoir faire, il faut que le pouvoir soit du pouvoir faire, et ce qui compte, c'est moins le pouvoir que l'exercice du pouvoir. Et donc, y compris Robespierre, se prononçait lui pour qu'au bout d'un certain temps, les hommes de pouvoir laissent la place à d'autres. Donc il était extrêmement moderne avec cette proposition-là. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui exige en fait de la population, de la politique d'un pays d'être à un certain niveau, quoi. Donc évidemment, moi je pense que le bien commun doit l'emporter sur l'intérêt particulier, parce que l'intérêt particulier ça nous mène à la mort, ça nous mène, on le voit aujourd'hui, et donc il faut arriver à trouver les moyens d'exercer le pouvoir pour que le bien commun l'emporte.
Alors dernière question, pendant le débat vous avez évoqué également le cas des sans-papiers et vous êtes d'ailleurs pour la libre circulation des personnes, peut-être quelques petits mots là-dessus ?
Je pose la question de la libre circulation des personnes. Je dis que la libre circulation des personnes avantage carrément le capital. Je dis qu'il faut reposer à gauche la prise en compte de ça. Parce que sinon, ça va mal se terminer, quoi. Ça va se terminer de manière ethnique. Et je pense qu'il faut que la gauche, notamment, parce que je suis de gauche, je suis du camp de la gauche, travaille à ce qu'on prenne ça en compte de manière civique. et non pas ethnique. Mais c'est vrai que ça pose un vrai problème, parce que, je veux dire, c'est pas les nantis, c'est pas les possédants. D'ailleurs, le général de Gaulle disait, les possédants sont possédés parce qu'ils possèdent, et je pense qu'on est en plein là-dedans, quel que ce qui soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Hein. Je pense que ça pose un vrai problème, la libre circulation des personnes pose un vrai problème aujourd'hui de politique, quoi, d'organisation de la vie de la cité en commun.
C'était un entretien avec Valère Starazelski, auteur du roman « L'adieu au roi ». Il était venu présenter son livre et en débattre avec le public dans le cadre de l'avant-salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras.
Ça ira, les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever de misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Ah, ça ira.